pas des rétros, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, ben c'est tout de suite beaucoup plus clair.
La musique celte, c'est une musique avant tout ethnique. Elle correspond à un peuple, c'est une musique historique. Un peuple qui s'étend du Danube à l'est jusqu'à l'Irlande à l'ouest, du nord de l'Espagne au sud jusqu'au nord de l'Europe. C'est une musicalité, une sonorité qui parle d'un peuple auquel nous appartenons. Parce qu'ici, nous étions celtes, les Nantuates qui priaient le dieu Tarnae. C'est bon, je l'ai trouvé, la capitale étant Massonger dans la région Tarnae, qui était le dieu du ciel et de l'orage, géniteur de Lug. Sandrine Chalet, présidente de la confrérie du Loup, qui est en fait l'organisation qui s'occupe d'organiser le festival celtique de Corberier. C'est un truc de fou, ça, en fait, que ça nous réunisse autant de peuples, ces sonorités-là.
Exact, c'est une des forces, en fait, de cette musique ethnique, c'est vraiment d'être rassemblé. Parce que tu sens ça, en fait, hein, dans cette musique celtique, ce côté rassembleur de tout un peuple, que ce soit dans la danse, que ce soit dans les chants, que ce soit dans la musicalité que tu peux trouver dans différents endroits, hein, donc que ce soit en Bretagne, en Galicie, en Irlande, en Écosse, etc. Tu retrouves, en fait, cette symbiose d'un peuple qui, ensemble, avance. Et ça, c'est juste transcendant et magnifique.
Un peuple qui, ensemble, avance. Et c'est vrai qu'en règle générale, les festivals de musique celtique, t'as des gens qui viennent des quatre coins du monde. Tu regardes le festival de l'Orient, c'est un truc de fou. Et t'as 7 pays qui sont représentés chaque année.
Claire, et nous aussi au festival celtique, on essaie systématiquement en fait d'avoir des gens qui viennent de différents endroits, que ce soit d'Écosse, que ce soit d'Irlande, que ce soit de Bretagne, pour justement, et même de Galicie ou autre, pour justement retrouver en fait cette transcendance entre ces peuples, enfin ces différentes régions qui ensemble font ce peuple celtique et cette culture celtique.
Et pourquoi tu crois qu'il y a eu ce renouveau, parce que c'est vrai que pendant un certain temps la musique celte finalement on l'a un petit peu laissé de côté, quoi. Il y a un petit côté médiéval et puis on l'a un petit peu laissé de côté, et puis depuis quelques années c'est un petit peu revenu dans le devant de la scène.
Ça revient un petit peu parce que je pense qu'il y avait tout un côté qu'on appelle un peu plus traditionnel, mais je mets entre gros guillemets parce que c'est un peu compliqué de tout mettre sous cette appellation traditionnelle, où on est beaucoup plus effectivement dans des chants, c'est beaucoup plus lyrique comme ça, hein. C'est des chants religieux aussi, donc il y a beaucoup de place qui était donnée notamment dans les musiques irlandaises au vocal, au côté a cappella en fait, hein, et qui passe moins, je dirais, en radio ou quoi que ce soit. C'est vraiment une musique qui est beaucoup plus de trance, à quelque part. Depuis les années 70, il y a d'autres sonorités, jazz, rock, blues, qui sont venues en fait se greffer dessus, et ça a redonné en fait un dynamisme à la musique celtique en lui donnant des couleurs un petit peu différentes. Et donc, ça a aussi pu être diffusé plus largement sur les ondes radio, notamment.
Ouais, notamment grâce à l'artiste qu'on a écouté, Alan Stivell, qui était là on a écouté la version 93, mais il avait fait des versions déjà dans les années 60-70, et c'était très hippie en fait.
À fond. Mais tu retrouves cet esprit un peu hippie, hein, dans le cadre de la culture un petit peu celtique comme ça. En tout cas, il y a toute une sacralisation comme ça de la nature, et d'être vraiment en symbiose en fait avec les éléments, et tu le retrouves aussi dans les danses, tu le retrouves aussi dans le chant. Il y a vraiment ce côté symbiose, transcendance en fait, que moi j'adore en fait personnellement. Bon, je suis un peu amoureuse de la transcendance, alors.
Oui, mais c'est vrai que c'est un peu la musique du peuple des forêts.
Oui, c'est un peu ça, parce qu'il y a vraiment une sacralisation de la nature, très importante, hein. Les druides, etc., c'est pas juste dans l'imaginaire, il y en a encore des druides, hein. On en a un à Corberier, enfin je veux dire. Donc ça existe encore, il y a encore des gens qui sont là et qui font encore ces cérémonies et qui font référence à toute cette mythologie et à toutes ces croyances en fait celtes. Hein, ouais.
Et puis, quand on parle du festival celtique, justement, comment est-ce qu'on va appliquer tout ce celtisme ? Parce que il faut voir les gens arriver.
Oh oui. déjà, on met pas de limitation au niveau de l'imprégnation qu'on peut avoir. C'est-à-dire que les gens viennent déguisés la plupart du temps. Alors nous on dit déguisés, mais en fait ils viennent simplement comment étaient les Celtes à l'époque. Mais aujourd'hui c'est un déguisement, mais bon voilà. Donc la plupart vraiment aiment incarner en fait cette culture-là. Donc non seulement les gens peuvent venir déguisés, mais nous au festival celtique, on veut que ça reste un petit festival. On n'a pas du tout envie d'être dans ce côté consommation quoi que ce soit. C'est une grande petite famille, si je peux dire ça comme ça. On a aussi tout le côté village celtique, donc on a vraiment envie que les gens replongent dans cette ambiance celtique d'antan, à quelque part, avec des artisans, parce qu'ils étaient très très forts en fait pour tout ce qui était métallurgie, artisanat, etc. Il y a aussi tout un côté croyance liée aux elfes, aux pays un petit peu cachés, au monde caché comme ça, dans les forêts notamment, en tout cas le lien avec la nature. Donc on a chaque fois aussi un endroit dans la forêt, et puis la culture au niveau musical, avec deux scènes, une qui est plutôt, entre guillemets, justement vraiment traditionnel avec des chants ou des musiques irlandaises, des choses comme ça, où tu retrouveras du violon, tu retrouveras de la flûte, enfin plein de trucs du genre. Et puis une autre scène où on met en avant plutôt ce mixage avec ces sonorités blues, jazz, rock, une scène un petit peu plus rock'n'roll, on va dire.
Et même punk des fois, hein, parce qu'on a typiquement les Dropkick Murphys qui sont des descendants irlandais de Boston. Nous, on a tous la chanson en tête, comment elle s'intitule déjà, c'est Lost My Leg. C'est un truc donc on avait vu dans le film The Departed, qu'on a entendu dans le film The Departed. Ça se prête à ça en fait.
Mais clairement, oui. Puis après, il y a d'autres groupes encore qui étaient super connus, comme par exemple le punk avec les Pogues, qui ont beaucoup aidé à diffuser en fait cette musique-là, qu'elle devienne plus populaire, je dirais, au sens large.
On peut parler aussi de groupes comme Matmata, par exemple.
Clairement, alors ça c'est les Bretons. Donc nous, c'est clair qu'ici en Suisse, on a quand même été beaucoup plus influencés aussi par la Bretagne, de par la proximité de la langue aussi, et puis du lieu, quoi. Donc oui, il y a Matmata, ça c'est clair. Alors ils sont super connus. Et puis nous, on a été un peu plus influencés par le côté breton. Mais les Bretons, ils ont chacun dans chaque région, en fait, que ça soit Bretagne, Galicie, Irlande ou Écosse, ils ont aussi développé en fonction de leur histoire leur propre sonorité, leurs propres instruments aussi. T'as des cornemuses qui sont différentes, que ça soit en Bretagne, que ça soit en Irlande ou en Écosse.
J'allais le dire, en Écosse, elles sont balèzes, les cornemuses. En Espagne, elles sont vachement plus petites. Nous sommes plus modestes. Et puis en plus, c'est que mon papa vient de cette région-là, ma mère aussi vient des Asturies. Donc d'ailleurs, la Galice et les Asturies qui sont des régions juste à côté de l'autre, la cornemuse est déjà différente.
Exact, oui. Alors tu parlais en fait de la cornemuse écossaise. Alors celle-ci, elle a vraiment plein. Alors ces tuyaux qu'on appelle des bourdons comme ça, ça va jusqu'à 120 décibels le truc, quoi, je veux dire.
Ouais.
Donc ouais, tu l'entends, tu vois. Mais parce que en Écosse, ils ont développé beaucoup plus le côté un peu des Highlands, comme ça, c'est un peu le côté rudesse militaire. Ils sont beaucoup plus dans un côté marche. Hein,
oui.
Où tu trouveras du tambourin, des choses comme ça, qui font vraiment l'appel en fait aux guerriers qui doivent avancer et puis qui doivent aller conquérir le truc. Donc c'est beaucoup plus fort, on va dire. En Irlande, tu vas retrouver un truc beaucoup plus doux, avec une cornemuse aussi qui est beaucoup plus douce, le Yolen Pipe, qui se joue beaucoup plus assis aussi, et pas debout. C'est l'instrument le plus sophistiqué et le plus compliqué aussi à jouer, en règle générale. Et là aussi, c'est lié au fait que en Irlande, il y a eu cette opposition avec la Grande-Bretagne, où ils souhaitaient en fait devenir indépendants et tout. Donc ils devaient être discrets, et les instruments qui étaient typiquement rattachés en fait à la culture gaélique ont été interdits par les Britanniques. Donc il fallait faire discretos, quoi. Donc ils se réunissaient comme ça en fait en petites bandes et tout dans les bars ou bien dans des maisons pour pouvoir continuer à perpétuer en fait leur culture. Mais vu qu'ils étaient un peu surveillés comme ça par les Britanniques, il fallait que ce soit plus doux. Donc on trouve aussi des sonorités beaucoup plus douces chez les Irlandais qu'on trouvera moins en fait chez les Écossais. Puis du côté des Bretons, là t'as des chants de marins. Ils sont quand même ils sont quand même à côté de la mer et tout. Ils sont connus pour. Donc t'as beaucoup plus des chants marins. Et puis eux, c'est le fest-noz, c'est les fêtes de village. On a bien bossé toute la semaine. On a vraiment trimé et tout, et donc le week-end on se lâche à fond, et là c'est fête de village. Et puis la cornemuse là-bas, elle s'appelle le biniou. Alors il y a un seul petit tuyau, enfin un seul bourdon, quoi, mais elle se joue aussi debout. Et puis tu retrouves ce côté aussi, ils se mettent ensemble, mais là t'as des petits tambourins, quoi, donc ça ressemble un tout petit peu, si on veut, au côté écossais, mais non, c'est quand même bien différent.
C'est le côté festif d'ailleurs, les fest-noz, tu disais,
fest-noz.
Il y a une chanson de Mano qui parle de ça, parce que les émigrés bretons à Paris, finalement, ils étaient tous plus ou moins dans le même quartier. Ils en faisaient tous les vendredis, c'était le dawa. Mais surtout aussi, la cornemuse, par contre, il faut le dire, il n'y a pas tout le monde qui aime le son de la cornemuse. Moi, personnellement, j'adore. Et la cornemuse, c'est simple. C'est soit on joue à 1, soit on joue à 15. Parce que si on joue à 3, ils sont fabriqués main, ces instruments. Ce qui fait qu'il peut y avoir des légères différences, comme les flûtes ou les pipeaux ou les fifres. Il peut y avoir des légères différences entre un instrument et l'autre en termes de fréquence, ce qui fait qu'il va avoir des impressions de fausses notes.
Ouais, mais clair. Et alors, attends, mais faut pas réduire non plus, en fait, la musique celtique à la cornemuse, parce qu'il y a ça, en fait, comme sonorité. Ça, c'est clair. L'instrument, en fait, de base, en tout cas, qui est emblématique, c'est la harpe. Déjà, c'est pas du tout en fait la cornemuse. La cornemuse, elle a été introduite plus tard. T'as le violon. Alors attention, parce que en Irlande et en Écosse, le violon c'est encore différent. Parce que en Irlande, si tu dis que tu fais du violon, c'est moyen, tu vois. En fait, tu fais du fiddle.
Oh.
Ouais, c'est une autre technique en fait au niveau de l'archet, etc. Donc attention, il pourrait se vexer.
C'est vrai que pour le violon, pour la musique celtique, ils tiennent l'archet beaucoup plus haut, les violonistes, pour pouvoir faire des mouvements plus rapides.
Oui, exact. Et puis tu retrouves aussi dans la musique typique irlandaise la flûte. beaucoup?
Oui, énormément.
À bec ou traversière, hein, que tu as retrouvé. Donc là, c'est le whistle.
Le whistle.
Le whistle, exactement.
C'est le murmure, ça, en plus. Ouais. C'est le sifflet.
C'est un sifflet, plutôt. Et puis, en Bretagne, tu auras plutôt de la clarinette qui va se rajouter dessus, ou alors de la bombarde. Ça, c'est une sorte de hautbois.
D'accord.
Voilà, donc que tu trouveras moins en fait dans les autres trucs, quoi. Bah après, c'est quand même la musique celtique, mais ils ont ces petites sonorités comme ça un petit peu différentes. Il y a l'accordéon qui est gentiment arrivé aussi sur le marché, l'harmonium aussi qui arrive gentiment aussi en Irlande. Ils utilisent passablement d'harmonium. Et puis pour tout ce qui est rythmique, eh ben tu vas avoir soit ce qu'on appelle le bodhrán. Le bodhrán, c'est une espèce de tout petit comme ça tambourin que tu joues à main en fait.
Ouais.
Et puis sinon, ben ça va être caisse claire ou alors grand tambourin. Chez les Écossais, là, t'as le
droit. Là aussi, il faut que ça marche.
Ouais, exact.
Et il y a un instrument, j'arrive pas à trouver le nom. C'est une viole, mais je sais plus le nom de cet instrument-là qui marche avec une moulinette, en fait, avec un moulin. Une viole à roue. Une vielle à roue, voilà. Merci beaucoup Suzanne qui est la technique ici à côté de moi, merci infiniment. Qui est en fait un instrument qui va ressembler en termes de sonorité au violon, mais avec un son constant, puisqu'en fait c'est une manivelle qu'on tourne sur le côté qui va donner la note constante et puis avec laquelle on va jouer les accords un peu comme à la manière d'un violon dessus ou d'une guitare.
Mm-hmm.
Et tout ça c'est celtique.
Exact.
Et demain qu'est-ce qu'on va avoir comme musique, dis-moi?
Alors, demain, la première partie, elle sera vraiment consacrée à la danse. Donc, c'est des peuples qui ont beaucoup dansé aussi et qui aiment danser ensemble.
Oui.
Donc, il y a vraiment ce côté, on danse ensemble.
Festif.
Exact, festif. Et donc, tu auras donc une première partie qui sera consacrée à de la danse, où là, on va faire de l'initiation. Et c'est vraiment de la danse donc ensemble. Donc, tu as le fameux jig, ou alors le reel irlandais. Donc, ça, c'est des danses qui sont un peu sautillantes, comme ça.
Ouais, mais c'est comme légère. Si on essayait de sauter sur une flaque sans se mouiller.
Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est assez léger comme ça, hein. Donc les danseurs qui seront là vont d'abord faire une initiation pour que les gens connaissent un petit peu les pas, etc. Puis ensuite on va pouvoir danser ça. Et puis ils vont aussi nous montrer la chapeloise. Alors ça c'est un peu plus breton, où là en fait on danse tous ensemble. Enfin chaque partenaire en fait change après de partenaire. Tu dois normalement faire en sorte de danser avec chaque personne qui est présente, quoi.
Okay.
Donc il y a un côté hyper bal là-dedans, où on a ce côté d'être ensemble et puis de vivre en fait la danse ensemble. Et ensuite, à 22h, alors là, on va plus se lâcher rock'n'roll à fond avec
rock celtique. Ah, oh, mais ça donne envie, franchement, faut pas déconner. Bon, ben voilà, on a toutes les infos, sauf on va encore dire que ça se passe demain au Kremlin de Monté et que ça ouvre à 19h. Et puis qu'ensuite, ben, ça commence dès 20h avec les stages de danse et les concerts à 22h et que c'est en soutien au Festival Celtique de Corbeil-Essonnes dû à la fermeture de cet été qui a fait vraiment mal à leurs finances et déjà ça fait mal au cœur. Merci beaucoup Sandrine Chalet d'être venue nous expliquer, ben, ce que c'était que la musique celtique pour toi et pour beaucoup de monde. Finalement, tu nous l'as très bien expliqué. Je rappelle que tu es présidente de la Confrérie du Loup qui organise le Festival Celtique de Corbeil-Essonnes. Merci, excellente soirée.
Merci, avec plaisir.